On peut ouvrir une séance de discussion. Est-ce que des personnes ici auraient des questions à poser, des réactions? Oui.
Oui, je voudrais d'abord vraiment féliciter les deux groupes parce que leur présentation était extrêmement précise et puis avec une vraie réflexion, notamment sur une recherche de pourquoi en fait la loi avait été dans ce sens-là. Et juste sur ce point-là, je me permets juste de faire un petit commentaire. Moi, je travaille avec mes étudiants souvent sur des cartographies de controverses. Et je pensais à ça quand je voyais les différents groupes présenter le texte de loi. Vous vous êtes focalisé beaucoup sur le texte, évidemment, et sur les éléments de la loi. Mais vous pouvez aller plus loin en essayant de comprendre pourquoi on en est arrivé à ce texte de loi-là. Et souvent, ce qui peut aider, en tout cas nous, c'est aussi une méthodologie qu'on avait systématiquement prise au Conseil national du numérique, c'est d'utiliser des cartographies de controverses, de débats, donc ça c'est des méthodes utilisées en sociologie, hein, beaucoup, qui permettent de voir comment on en est arrivé là. Voilà, ça c'était juste une petite remarque. Après, j'avais juste trois points, peut-être de débat, ou trois remarques que je voulais faire sur les deux présentations. Sur la première, hein, sur la conception extra-patrimoniale des données. C'est un sujet qui est très débattu et je me souviens de la discussion qu'on avait eue au Conseil d'État sur cette question. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de conception extra-patrimoniale en France, c'est lié au fait que on veut protéger les plus faibles, hein, et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui avec les données. C'est que si on laisse la propriété des données aux individus, ils sont capables, hein, en tout cas ils sont prêts à vendre pour rien du tout leurs données. Et donc cette idée de la conception extra-patrimoniale, il faut savoir qu'elle vient de là. Plein d'enquêtes montrent qu'en fait, on peut vendre pour 50 euros toutes nos données personnelles, y compris les données de santé, etc., etc. Et donc c'est pour protéger l'individu. Et le Conseil d'État, je me souviens, était très, très. Enfin, la position était très catégorique sur ce sujet. Et pour rebondir sur tout ce qui a été dit sur la mort numérique, c'est cette idée que les individus n'ont aucune idée aujourd'hui, le grand public n'a aucune idée de ce que peuvent représenter les données laissées, les traces numériques, en termes de valeur. Pour les entreprises. Et donc, eux, 100 euros, 200 euros, c'est beaucoup, alors que ces données peuvent valoir beaucoup plus cher. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était sur l'extension des pouvoirs de la CNIL. Je me permets de soulever un point qui n'a pas été mentionné dans la présentation. Alors, c'est un détail, hein, mais simplement qui nous a amené, nous, à faire un certain nombre de. C'est que dans l'article 59, il y a une extension de la CNIL à mener des réflexions sur les questions éthiques. Alors vous allez dire, je suis obsédée par ça, mais on a eu un gros débat, y compris avec la secrétaire d'État, et en particulier au sein de la CERNA, hein, on est allé revoir Axel Lemaire sur ce point-là, parce qu'il nous semblait très étonnant que la CNIL, qui n'est pas en fait dans les textes une autorité de régulation, en tant que telle, qui n'a pas une autorité de régulation, mais soit juge et partie sur les questions d'éthique. Voilà. C'est pour ça qu'on avait poussé à cette idée du comité d'éthique. Alors, c'est pour des raisons de ne pas faire un autre comité ou pour utiliser d'autres méthodes, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, ça me pose un problème que ça soit la CNIL qui règle les problèmes, enfin, qui s'empare des questions éthiques. Et pourtant, c'est dans le texte de loi aujourd'hui, mais c'est un débat. Sur toujours le renforcement des pouvoirs de la CNIL, la loi reste faible, même 3 millions d'euros pour des groupes comme Google, comme des grands opérateurs, c'est toujours quand même très très faible, donc c'est une extension des pouvoirs, mais on reste dans un cadre quand même qui est relativement limité, avec, on le sait, une capacité aussi humaine de la CNIL. Enfin, il n'y a pas non plus 10 000 personnes à la CNIL. Et donc là, on est dans une extension des pouvoirs d'un organisme qui n'a peut-être pas tout à fait la capacité au quotidien de répondre à toutes les demandes. Et ça pose un problème sur l'application de la loi en tant que telle. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est sur la question de l'open science. Alors ça, c'était moi une partie enfin, qu'on a beaucoup poussée et que je trouve très intéressante, évidemment. Vous avez compris derrière qu'il y a un très, très gros, une très grosse réaction des éditeurs, évidemment, sur ces questions-là, et que cette loi, elle n'a pas été facile, cette partie de la loi, elle n'a pas été facile à faire passer. Dans votre présentation, c'était beaucoup. Enfin, on sentait que c'était plutôt sur les ouvrages, par exemple, hein, sur des contrats d'édition qu'un chercheur peut avoir au travers d'ouvrages, mais ça porte aussi sur, évidemment, les articles scientifiques dans les publications, dans les revues. Et c'est là où c'est un vrai pas, en fait, hein, de rendre public les publications. Alors, ce que tous les chercheurs font, quand même, dans les faits, c'est qu'on met dans la dernière version avant publication sur le site. Donc, en fait, tout le monde le fait déjà. On ne met pas la dernière version telle que publiée dans la revue, en fait. Hein, donc, c'est déjà en partie fait dans un certain nombre de matières. Par exemple, en computer science, ils font ça régulièrement. Mais la loi permet d'aller encore plus loin. Et alors, juste pour terminer là-dessus, ça ouvre aussi un autre élément, et c'est pour ça que cette loi a été poussée aussi, c'est que derrière l'open access, il y a une volonté d'un certain nombre d'acteurs de travailler en big data des travaux de recherche, c'est-à-dire de prendre toutes les publications et d'aller faire des analyses sémantiques, des analyses de data à partir des articles de recherche. Il y a un certain nombre de traitements automatiques. Et tant que ces articles ne sont pas en open access, eh bien, on peut difficilement faire ces analyses. Donc, il y a cette volonté aussi poussée par des acteurs, par il y a un collectif Big Data en France, etc., qui a beaucoup poussé ça pour pouvoir aller faire ces analyses. Je vous donne un exemple, par exemple, hein, aux États-Unis, il y a un système dans le domaine médical qui s'appelle Watson, qui est un système d'intelligence artificielle qui fait de la recommandation médicale, qui marche assez bien, paraît-il, en oncologie sur les cancers, qui fait la recommandation à un médecin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il traite massivement tous les articles de recherche en médecine qui ont été publiés, etc., etc. Hein, voilà. Et donc c'est pour permettre ce type d'approche aussi que cette partie d'open access a été faite. Voilà. Donc c'était juste quelques éclairages que je voulais donner par rapport à vos deux présentations qui étaient quand même très 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 bien.
Une réaction là sur l'article 59 et la CNIL. Moi, je suis pas du tout d'accord avec votre interprétation. D'abord parce que la loi originaire de 78 contient des dispositions qui sont pas très précises, mais qui orientent déjà la CNIL vers, dès l'origine, la prise en considération, je dirais, des aspects de réflexion, des aspects éthiques. Et depuis l'origine, depuis la loi 78, la CNIL a périodiquement pris des positions, je dirais, d'ordre éthique. Et les aspects éthiques, d'ailleurs, imprègnent très souvent sa doctrine sur des points tout à fait précis, sur des applications, sur des contentieux, etc. Bon, donc c'est à l'origine dans la loi. Simplement, c'est une fonction qui s'est développée avec le temps. Et à tel point qu'avant la loi, la CNIL s'est structuré, a changé son organigramme pour créer un département axé justement sur ces aspects de réflexion. Et c'est la CNIL qui a profité de la loi pour faire passer, pour officialiser une évolution qui était logique et qui était dans les tuyaux depuis bien longtemps. Il y a d'autres aspects dans la loi, dans l'article 59 qui, moi, m'intéressent plus. Mais je ne le relèverai pas sur la publication notamment des avis de la CNIL qui restaure un certain équilibre qui avait disparu lors de la transposition de la directive de 95 en 2004. Mais donc moi je pense que c'est pas nouveau. La CNIL a toujours intervenu de ce côté-là. Je pense d'ailleurs à une manifestation qu'elle avait organisée il y a quelques années, qui marquait d'ailleurs cet aspect de réflexion avec... Ça, c'est vraiment... ça veut dire aussi que la CNIL n'a pas le monopole de la réflexion, notamment sur les aspects éthiques. C'est un des acteurs.
Je peux juste répondre sur ce point-là. La question, ce n'est pas que ça soit la CNIL ou pas la CNIL, parce qu'ils sont tout à fait capables de le faire, etc. C'est la question de l'éthique, de cette démarche éthique, c'est-à-dire de donner à un organisme dont les personnes sont nommées par l'État de traiter des questions éthiques. Voilà, c'était plutôt rechercher un organisme indépendant. Mon point, c'est...
D'accord.
La CNIL, bien au contraire... La CNIL,
non, je ne cherche pas non plus à défendre la CNIL, mais historiquement, il faut reconnaître... que la CNIL a été un des premières structures à faire ce travail d'éthique et de réflexion. Alors tant mieux si maintenant c'est amplifié.
Que ce soit la CNIL. En
d'accord.
Fait, c'était plus sur ce
d'accord. Point. Petite réflexion aussi sur la mort numérique. Parce que l'historique est toujours intéressant. Puis la manière dont les choses se passent est toujours intéressant. Dès la loi de 78, on avait pensé à quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la mort numérique. Et puis bon, on avait estimé que c'était pas encore mûr, que c'était pas encore un grand problème, et en définitive, on n'a rien eu dans la loi d'origine. Ensuite, on a eu un autre problème qui est apparu. C'est la question de l'accès de tiers à des données personnelles après la mort d'une personne. Alors, en particulier les héritiers. Est-ce que les héritiers ont le droit d'accéder aux données personnelles qui sont dans les fichiers ou ailleurs, qui sont traitées d'une personne décédée ? Et la loi répond plutôt non. Et ensuite, grâce au juge, pour faire plaisir à M. Gomez, grâce au juge, il y a une évolution jurisprudentielle qui est venue... du Conseil d'État, c'est un arrêt de 2011, l'arrêt FICOBA, où le Conseil d'État, contrairement à ce qu'estimait la CNIL, a estimé que les héritiers avaient la possibilité, dans certains cas, disons, d'accéder aux données personnelles de la personne décédée, alors en particulier quand c'était des informations qui étaient utiles pour le règlement de l'héritage. Et on le retrouve dans la loi... La loi n'apporte strictement rien là, puisqu'elle ne fait que reprendre. Bon. Et ça n'est qu'après qu'on est véritablement devant ces difficultés pour les tiers, notamment les héritiers, d'accéder aux informations, qu'on a dit, bon, il y a un problème. Alors comment on va régler le problème ? Dans le cas de la loi de 78, ben, la personne elle a une maîtrise sur ses données. Donc il faut que ce soit elle qui prenne l'initiative. C'est... la personne à qui correspondent les données, qui doit prendre l'initiative de décider qu'après sa mort, les données la concernant seront accessibles. Et pas seulement d'ailleurs aux héritiers, à toute personne, dès qu'elle l'aura désignée. Et c'est là donc qu'on est arrivé à la reconnaissance et à la consécration du droit de la personne, de son vivant, de décider de ce que deviendront les informations après sa mort. Ça pose aussi des problèmes pratiques. Je crois que le droit à l'oubli, c'est bien de le voir sur le plan juridique. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension familiale, psychologique, sociologique, que le droit ne peut pas intégrer et qui est quelque chose de délicat. Je prendrai un exemple concret, moi qui m'a touché. Le père d'une victime de l'attentat du Bataclan, qui a perdu sa fille dans l'attentat, a demandé à l'opérateur de télécom que, bien que sa fille abonnée soit décédée, il puisse payer l'abonnement, continuer à faire vivre l'abonnement de sa fille. Pourquoi ? Parce que quand on décroche le téléphone, on entend derrière le répondeur la voix de sa fille. Et c'était pour garder la mémoire de sa fille, non seulement vis-à-vis de lui-même, pour lui c'était insupportable que cette trace de sa fille disparaisse, non seulement vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis des tiers, de ses amis, etc. Donc c'est un numéro de téléphone, et j'ai fait l'expérience. On appelle et on entend la voix de la personne qui est décédée, qu'on la connaisse ou non. C'est une manière de la maintenir en vie. Elle aurait très bien pu dire de son vivant à l'opérateur, moi je veux, si je meurs, que vous effaciez toutes mes données et que l'abonnement terminé. Bon, ça, le droit, il ne peut pas régler ce genre de situation. Il faut être modeste, c'est compliqué.
Deux réflexions sur l'article 63, là aussi, encore une fois, sur la question des directives générales et sur la question des sanctions prononcées par la CNIL. Sur la question des directives générales, en écoutant votre propos et en reprenant le texte à l'instant, j'ai vraiment vu presque le caractère analogue, j'ose pas dire comparable, j'ai l'impression que c'est analogue, en regardant la disposition, au dispositif qui a été créé par la loi du 6 février 2016 sur la fin de vie. Le dispositif dit des directives anticipées qui permet à chacun de prévoir sa fin de vie physique, hein, j'entends bien. On retrouve ici le tiers de confiance, on retrouve ici le contrôle, y compris le contrôle a posteriori du tiers de confiance. On retrouve ici la question de la modification, de la révocation du vivant de la personne, exactement comme ce dispositif. Et finalement, si on fait une comparaison entre la loi de février 2016 et la loi donc d'octobre 2016 sur la vie physique d'une part, enfin sur la fin de vie physique d'une part et sur la fin de vie numérique d'autre part, on a l'impression que, sans doute, sans trop y faire attention, mais quand même, l'analogie est suffisamment suspecte pour qu'elle soit quand même, qu'il y ait quelque chose, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, le législateur unit pratiquement les dispositions qui garantissent à chacun l'organisation de sa fin de vie, à condition évidemment, on le disait en off, en vous écoutant, de le prévoir par exemple auprès d'un notaire. La deuxième chose, et là ça n'a rien à voir, c'est la question de l'article 65, vous avez bien évoqué les trois cas où, les trois cas où la loi était en décalage avec le règlement européen. Enfin, je crois qu'il est important de rappeler qu'un règlement, il est obligatoire, général et directement applicable, et donc par conséquent qu'il est d'effet direct, hein, ça a été jugé il y avait 25 ans par le Conseil d'État, et je suis très impatient de voir la première décision juridictionnelle qui va nécessairement dire que ce texte est tout simplement contraire sur le rapport de conventionnalité, il est rapport au règlement européen. Et on peut imaginer qu'à la première occasion où il y aura une sanction de 3 millions d'euros, la victime fera appel ou fera un pourvoi et demandera l'application des dispositions du règlement européen sur donc le chiffre de 4% du chiffre d'affaires. Évidemment, 4% sur le chiffre d'affaires, c'est pas la même chose. Hein, vous l'avez rappelé, Google, hein, vous le savez, c'est 1,7 milliard estimé de chiffre d'affaires en France en 2015. En 2016, on attend l'estimation. Ben, en calculant 4%, hein, on est déjà au-delà du 50 millions d'euros. Donc on est à 12 à 15 fois plus que la sanction prévue par l'article 63 de la loi donc, du 7 octobre 2016. Ceci étant, on est bien d'accord que même si on se limite uniquement au montant actuel, comme au montant précédent finalement de la sanction prévue en France, c'est que le montant de la sanction il est dissuasif. Hein. Je pense que le bruit qu'a fait l'affaire Google Spain et la condamnation par la CNIL de Google, qui sont arrivées à peu près au même moment et pour des causes sans doute équivalentes, le bruit qu'a causé ces deux affaires a été bien plus important que le montant de la condamnation pécuniaire qu'a subi Google. Il suffit d'ailleurs de regarder maintenant le site de Google, on arrive très facilement à voir tout le laïus qu'ils ont mis en place pour pouvoir, alors évidemment on peut discuter exactement de ce qu'ils font, mais enfin pour pouvoir coller à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, même si, facilement d'un aspect critique, on peut dire qu'ils y collent à l'envers en quelque sorte, hein, en s'étant engouffrés dans tout ce que la Cour de justice n'avait pas sanctionné. Mais peu importe, il y a quand même eu un progrès, et ce progrès, c'est pas celui de la sanction pécuniaire, c'est celui de la sanction du juge, finalement, et des motifs des décisions juridictionnelles ou des motifs de la décision rendue par la CNIL. Ceci étant, je suis impatient que quelqu'un fasse appliquer le règlement plus que la loi sur le montant de la sanction.
Un problème aussi pratique concernant les sanctions, c'est pas tout de fixer un accroissement considérable des amendes. Encore faut-il aussi que le juge soit à la hauteur. Là, je critiquerai le juge. Par exemple, quand on voit le droit pénal attaché aux infractions spécifiques de la loi informatique Vichy Liberté, qui sont dans le code pénal, qui fixe donc un montant qui, on estime aujourd'hui, effectivement, qui est pas considérable, eh bien, dans la quasi-totalité des contentieux, le juge est resté toujours très en deçà du montant maximum de ce qu'il voulait prononcer. C'est-à-dire que le juge a ridiculisé les sanctions du code pénal. À tel point, d'ailleurs, que la CNIL a pris quasiment la décision de ne plus utiliser les ressources que lui offre la loi, c'est-à-dire de dénoncer elle-même l'infraction auprès du parquet. Donc, elle est tellement déçue de la réaction du juge, qui fait le bonheur de celui qui a commis l'infraction, que la CNIL préfère de loin maintenant porter des choses devant le média, porter sur atteinte à l'image de marque, à la réputation. C'est beaucoup plus efficace. Elle ne croit pas aux ressources du droit pénal. Alors, heureusement que le juge européen voit les choses un petit peu autrement, mais il faudrait aussi que les juges français changent leur vision des choses. Vous parliez de la formation des juges, on retrouve le problème de la formation des juges. Il y a quelques années, fait une formation avec d'autres collègues sur le droit de nouvelles technologies à Bordeaux, à l'école de la magistrature. Je peux vous dire que le droit de la protection des données personnelles, ça ne les intéressait pas. Du tout. Bon. Ils sont censés protéger le droit des libertés des citoyens quand même. Bon, alors peut-être que ça a changé, mais là aussi, il y a un problème de mentalité des magistrats. C'est un problème général.
Juste un mot, à l'heure des charges, c'est que quand le juge intervient, notamment sur le plan pénal, il applique les règles du droit pénal et de la procédure pénale, les circonstances atténuantes, enfin bref, tout ce que l'on peut appliquer. Et il est donc dès lors légitime qu'il apprécie, ben, comme il apprécierait une sanction autre du point de vue pénal. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à cela. Qu'il y ait maintenant des modèles de régulation un peu différents qui permettent de contraindre certaines structures qui n'ont pas compris, etc. Et dans le même temps, si vous voulez, j'ai une autre interrogation qui va un peu en contrepoint de ce que l'on dit. Je suis personnellement assez opposé à toutes ces structures indépendantes qui se sont substituées aux juges. Voilà, parce qu'on ne vit plus qu'au travers de cela aujourd'hui. Eh bien, la CNIL, eh bien, elle fonctionne sous le contrôle du Conseil d'État. On le sait. Elle fonctionne quelquefois sous d'autres contrôles. Mais je n'accorde pas à ces commissions dites indépendantes plus de pouvoir que le juge ne doit avoir, parce que c'est quand même le juge garant par la Constitution, garant des libertés individuelles. Or, on a substitué de multiples organismes administratifs, etc. Eh bien, alors, si vous voulez, la question se pose là. Que veut-on ? Est-ce qu'une sanction de la CNIL, est-ce qu'une décision de la CNIL a plus de portée qu'une décision judiciaire ? J'en sais rien. Parce que, vous savez, même si les juges... Je suis le premier à dire qu'il faut beaucoup de formation pour les juges, beaucoup d'implication. Tout à fait d'accord. Dans le même temps, ils ont un rôle qui n'est pas uniquement... ce rôle de sanctionnateur que l'on voudrait voir appliqué, ils ont également un rôle de compréhension et d'explication. Et d'ailleurs, certains ne comprendraient pas que dans tel contentieux interne, eh bien, les sanctions puissent être minimes, alors que dans tel autre contentieux, au prétexte qu'il concernerait le domaine de compétence de la CNIL, par exemple, eh bien, les sanctions seraient 2-3 fois supérieures. C'est tout cela aussi qui est important. Le rôle du juge est un rôle un peu particulier. Alors, soit on lui dit, ben, écoutez, vous avez ici un barème, vous ne pouvez pas en sortir. C'est un choix, après tout, que l'on applique ce choix. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, le juge... il fait encore ce qu'il a le droit de faire dans le cadre des lois qui régissent notamment son intervention au plan pénal. Alors moi, je préfère, c'est pour ça que je le dis aussi, je préfère aussi l'intervention du juge plutôt civil, parce que les contraintes civiles
ont parfois beaucoup plus d'effet finalement que les contraintes pénales. Parce que dans le côté pénal, il y a cet aspect un peu moralisateur, etc. Les contraintes civiles sont un peu différentes, elles orchestrent un peu différemment la réaction judiciaire. Donc, et puis, il peut y avoir effectivement un aspect économique. Enfin, pour autant, je ne discute pas l'appréciation que le professeur Rosiné a de cette situation, mais j'explique simplement que le juge pénal, on parlait du juge pénal, ne peut pas fonctionner différemment au prétexte qu'il y a là un contentieux et puis là un autre contentieux. Il fonctionne comme ça. Et puis, comme vous l'avez dit, certains juges ne sont pas du tout sensibles ou ni formés à la question numérique, etc. Bon, dans le même temps, c'est pour contrer un peu ce que je disais ce matin sur la nécessité pour les juges de se spécialiser, dans certains domaines, je dis oui, mais pas dans tous les domaines non plus, parce qu'on peut imaginer, dans le domaine du proxénétisme, par exemple, que le juge soit d'abord un spécialiste du proxénétisme avant de connaître des contentieux du proxénétisme. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus. Il y a des domaines dans lesquels le juge doit se spécialiser. Ce sont tous les domaines qu'on peut appréhender facilement et que l'on peut comprendre facilement. Mais pour autant, le débat est largement ouvert et je suis convaincu qu'on trouve, notamment au sein de la CNIL, énormément de personnes qui pensent que le juge pénal n'est pas adapté. Ça, c'est, je le sais, y compris des magistrats, puisque vous savez qu'à la CNIL, il y a quand même des magistrats de la Cour de cassation aussi qui fonctionnent et qui composent certaines chambres. Voilà. En tout cas, merci.
Je crois que oui. Maître Courtier veut prendre la parole.
Oui, je voudrais juste répondre à Monsieur le juge Gomez. Et au passage, je dirais que j'ai un souvenir ému de son bureau. J'avais plaidé devant le juge Gomez, qui avait un des plus beaux bureaux de la cour d'appel de Paris, qui était une tour où on avait l'impression de plaider au-dessus de la Seine, et c'était absolument extraordinaire. Donc, je garde un grand souvenir de votre bureau. Moi, juste un retour d'expérience pratique. Tout ce que vous dites, je suis d'accord, c'est pas pour vous contredire, mais de la façon dont nous, on le vit, en face de vous, c'est pas du tout ça. D'abord, si, on le vit de la façon dont vous le dites, c'est-à-dire que quand on arrive, alors, pas beaucoup en matière de données personnelles, parce qu'il y a peu de contentieux, mais mutatis mutandis, on vit la même chose en matière de propriété intellectuelle. Là, j'ai un beau contentieux en matière de données personnelles qui arrive, mais c'est parce que c'est des données médicales et des données médicales d'enfants. Donc, effectivement, ça émue le parquet, et tout ça va en correctionnel. La plupart du temps, effectivement, on est une balle de ping-pong, entre le juge civil qui nous dit « mais enfin, il y a des sanctions pénales, pourquoi vous venez nous voir, nous, on a du boulot par-dessus la tête et on n'est pas spécialisé ?» Et puis le juge pénal qui dit « mais qu'est-ce que vous venez faire avec ces dossiers-là, en propriété intellectuelle, etc. Vous savez bien ce qu'on traite, vous savez bien les dossiers qu'on a sur les bras, et ça, vos histoires, ben, c'est des histoires entre particuliers ou entre commerçants, etc. » Bon, ça, c'est pas grave, on est payé pour ça, pour jouer la balle de ping-pong. La seule chose que je veux vous dire, c'est que ce qu'on ressent, et ça vous le verrez dans aucun bouquin et sûrement pas dans le code, c'est qu'en fait ces dossiers-là sont abordés par les magistrats professionnels, puisque vous faisiez la différence entre les magistrats professionnels et les institutions indépendantes telles que la CNIL, au regard d'un critère immatériel qui est transcendant, qui est l'ordre public. Et si on ne parvient pas, nous, alors, en défense, lorsque on est dans la situation de défendre une victime, hein, bien entendu, si on est en défense de celui qui est poursuivi, c'est pas du tout la même chose. Mais là, je me place dans la défense d'une victime, d'une violation de données personnelles, d'une contrefaçon, etc. Si on n'arrive pas à trouver le moyen de d'émouvoir, j'allais dire, le juge pénal, qu'il se dise il y a une atteinte à l'ordre public, ça ne passe pas du tout. On a beau venir après une instruction, quand par miracle on arrive à obtenir une instruction, c'est ce qui tient alors là du miracle absolu, on nous dit mais qu'est-ce que... Non, alors on plaide l'ordre public économique, qui est l'espèce de solution de secours, mais on n'arrive pas toujours. Et la sanction, pourquoi les sanctions sont très faibles, ce que disait le professeur Fessinet avec beaucoup de justesse, eh bien parce que la sanction dans notre système judiciaire, c'est une sanction de protection de la société, c'est pas une sanction de défense des victimes. Et comme on n'arrive pas à démontrer au juge judiciaire qu'il y a une atteinte à l'ordre public, Eh bien, effectivement, on tourne en rond. Et donc, heureusement, mais c'est là que je me permets de vous contredire, mais sur la base de ce constat, heureusement qu'il y a des autorités de contrôle indépendantes, parce que sinon, on est dans un déni de justice absolu. Il n'y a pas d'autorité de contrôle indépendante en matière de contrefaçon, et donc il n'y a pas de jurisprudence pénale en matière de contrefaçon, si les dossiers ne sont pas amenés par les douanes ou portant sur des trafics très importants. Voilà. Alors, si le dossier est amené par les douanes... Bon, voilà, ça arrive par le biais de l'institution, etc. Moi, j'ai vu des dossiers, j'ai plaidé en correctionnel pour des histoires de t-shirts contrefaits, mais on était en correctionnel parce que c'était les douanes qui avaient sorti le dossier. Voilà, ça, c'est juste un retour d'expérience pratique. Et d'une dernière chose, parce que ça ne ressort pas assez de vos débats, moi, je piaffe un peu, tout ça va être balayé par le nouveau règlement. Après, il faut faire un colloque entier pour en parler, donc je n'aborde pas. Mais en grande partie, tout ça va être balayé par le nouveau règlement.
Bien, merci. Mais je pense qu'on va passer à la suite, à d'autres aspects de la loi République numérique. Alors, je crois que les groupes vont changer de place. Alors ça, j'aimerais faire une dernière réaction très rapide sur le groupe qui s'est chargé de la propriété littéraire artistique. Vous avez fait un lien avec la loi du 7 juillet. En ce qui concerne le référencement d'œuvres graphiques et plastiques, il y a un autre lien qui peut être fait entre les deux lois, c'est que la loi Liberté de création a aussi créé un nouveau droit d'exploitation sur l'image des domaines nationaux, qui est octroyé aux personnes publiques. Alors il y a quelque chose d'un peu paradoxal, je trouve, que dans une loi, on réduit la portée du droit d'auteur avec des nouvelles exceptions, et dans l'autre, on crée des nouveaux moyens d'exploitation sur des biens qui sont dans le domaine public. Il s'ajoute à ça, en plus, une jurisprudence réitérée du Conseil d'État, une jurisprudence commune de Tours, qui autorise les collectivités à exploiter l'image des œuvres qu'elles exposent dans leur musée. Là encore, des œuvres qui sont dans le domaine public. En termes de circulation des savoirs, j'aimerais comprendre. Et l'articulation entre ces deux lois. Bon, j'en dis pas plus loin, parce que de toute façon, il y aura jeudi prochain une autre table ronde ici même, qui va décortiquer cette autre loi, la loi Liberté de création. Et je salue le groupe d'étudiants installé discrètement là-bas, qui se chargera justement de nous présenter cette loi et ses contradictions entre les deux textes.